France Culture. Bonjour Olem Versini.
Bonjour Caroline.
C'est le quatrième temps qu'on a intitulé Une autre époque, parce que on vous a laissé à la fin du troisième épisode, au moment où, fin des années 80, 1988, vous décidez de tout plaquer. Pour quelle raison? Vous étiez fatiguée? Vous en aviez marre?
La première raison, je me sépare de mon mari. Donc je prends ma valise et je quitte le restaurant à ce moment-là. J'ai envie d'arrêter les étoiles, les toques et tout. Et j'ai envie d'arrêter un moment la cuisine aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai envie de voir un peu de temps et de prendre l'air,
mais vous
voyager.
Vous dites que vous aviez envie d'arrêter les étoiles. Vous étiez dans la course aux étoiles encore?
Alors, moi, j'ai jamais été absolument dans la course aux étoiles. D'ailleurs, quand j'ai eu la première étoile, je l'ai eue pour une bonne chose, c'est que le Michelin ne prenait aucun restaurant ouvert que le soir, étoilé. C'était hors de question, parce que leur idée, c'était l'époque qui voulait ça. Il y a des touristes, et donc le restaurant doit être ouvert d'une manière régulière, midi et soir. Sur ce, je dis, écoutez-moi, je travaille que le soir. Et après une discussion, j'ai dit, moi, je veux bien ouvrir un jour par semaine. Alors, pas le lundi, parce que c'est le lendemain du dimanche, pas le mardi.
Parce que c'est le lendemain du lundi.
Pas, etc. Pas le mercredi, c'est le jour des enfants. Donc, le jeudi. Et j'ai donc ouvert un déjeuner le jeudi midi. C'est comme ça que j'ai pu avoir une étoile. La récompense des étoiles ne m'a jamais intéressée. Moi, la récompense et le plaisir que j'avais, c'était de faire la cuisine qui me plaisait et que les gens qui la mangeaient étaient contents et revenaient. Ça, c'était ce que je préférais, évidemment. Et le problème, c'est que quand vous avez une étoile, souvent, vous en voulez deux. Quand vous en avez deux, vous en voulez trois. Et quand vous en avez trois, vous passez votre vie à vous torturer pour pas les perdre. Donc, c'est pas du tout ce que je souhaitais, absolument pas. Voilà, donc j'ai arrêté à ce moment-là.
D'accord, donc revenons à 1988,
oui,
donc vous arrêtez cette fois la cuisine avec l'envie de faire autre chose.
J'arrête complètement la cuisine avec l'envie de faire autre chose, avec l'envie de conseiller. Et c'est à ce moment-là, bon, j'arrête pendant 2 ans complètement. Je voyage.
Vous peignez.
Je peins, je fais des tas de choses.
Vous faites des reportages pour des magazines encore.
Exactement,
Corse, au
Maroc. Vous avez raison, j'oublie.
Prenez votre temps aussi.
Je veux
vous
prendre mon temps.
Votre temps.
Et à ce moment-là, aussi, il faut que je vive. Donc, à la suite de Comptoir, on en a parlé précédemment, qui a été le lieu à tapas formidable que j'avais ouvert avec des associés. Le magasin Virgin découvre ce lieu et ils trouvent ça tellement bien qu'ils veulent créer dans leur magasin des Champs-Élysées, dans les magasins de Marseille et de Bordeaux, ils veulent créer le comptoir.
Version Virgin. C'est plus le comptoir avec ses petits plats à partager comme des tapas qui les a inspirés que ce que vous aviez fait aux bains douches, par exemple?
Absolument, parce que les bains douches, c'était considéré comme une boîte et je suppose que ce qui les a vraiment intéressés, c'est que dans leur lieu, ils trouvaient ça formidable, l'idée de ces petits plats.
Voilà. D'accord. Ce qui a été donc et ce qui est devenu les Virgin Café.
Exactement. Alors, sur ce, ils ne m'avaient pas rencontré. Et c'est les associés du comptoir et mon ex-mari qui, à ce moment-là, ont négocié pour moi. Moi, je ne savais pas. Et ont décidé qu'ils allaient le faire et que moi,
et
j'allais aller au boulot. Bien sûr, c'était extraordinaire. Et j'apprends ça et je leur demande un rendez-vous au président de l'époque, qui était Zelnick, président des Virgin. Et puis, il y avait le directeur général qui s'appelait Workeby, qui était un Bordelais. Ils me reçoivent très gentiment. Et à ce moment-là, je leur dis, écoutez, l'histoire est simple. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez les tapas, comme je fais, signer aux lampes? Ou vous voulez comptoir? Il me dit, non, c'est vous qu'on veut. C'était au rez-de-chaussée, dans la librairie, une espèce de comptoir tout miteux, tout petit, avec 3 tables et tout. Je leur ai dit, écoutez, moi, ça, je ne vais pas là. Je ne vais pas travailler pour être légué aux oubliettes, au sous-sol. Donc, il n'en est absolument pas question. Donc, vous n'aurez rien. Et à ce moment-là, ils me disent, allez où vous voulez. choisissez ce que vous voulez.
Et vous voulez vraiment?
Et je choisis le deuxième étage de Champs-Élysées.
C'est
voilà. Parce que, en fait, j'avais besoin, parce qu'ils imaginaient, c'est-à-dire les associés du comptoir, mon mari, qu'on allait fabriquer la nourriture, la transporter et la vendre. Moi, c'était pas du tout mon objectif. Moi, je voulais qu'on cuisine dans le lieu où on mangeait. Et c'est pour ça que j'ai eu le deuxième étage, j'ai eu la moitié du deuxième étage. Je sais pas ce que ça représentait, ça devait représenter 400 mètres carrés au moins. Et j'ai eu une vraie cuisine immense. J'ai eu ce lieu qui était formidable. Et là, on a vraiment fait de la cuisine. On a cuisiné sur place. On faisait même le pain. Et ça a eu beaucoup, beaucoup de succès.
Alors, ça ne s'est pas appelé les tapas Olympe.
Non, ça s'appelait Virgin
Café. Mais ça s'appelait Virgin Café, oui. Quand même. Mais c'était des tapas Olympe. Par exemple,
carte s'appelait Olympe.
Le best-seller, je crois que c'était le hamburger de pommes de terre au saumon.
Oui, c'est ça. Parce que je voulais faire un petit clin d'œil. À l'époque, il faut vous dire qu'il n'y avait pas de restaurant dans les grandes surfaces. Il y avait au BHV une espèce de cantine miteuse. Il y avait aux Galeries Lafayette et au Printemps aussi. C'était pas vraiment des restaurants, c'était des espèces
sur
de
le cantines pouce.
Où les gens mangeaient sur le pouce. Et en fait, tous les lieux qui se sont faits après, comme on voit maintenant, c'est à la suite du Virgin Café. Que les grands magasins se sont dit, puisque moi j'avais été contactée par le BHV aussi pour faire des choses avec eux. Et donc, ils ont voulu créer vraiment de la restauration.
Il y a ça, et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi, Olympe Versini, dans la création des raviolis de canard au jus et épinards, par exemple, une sorte de pied de nez à tous ces fast-foods
oui,
qui voisinaient le Virgin des Champs-Élysées?
Évidemment, bien sûr. On faisait des pieds de nez, on faisait de la vraie cuisine. Et évidemment, les clients s'en rendaient compte. Ça, on faisait, je sais pas, peut-être 600 ou 700 couverts par jour, 800 couverts par jour dans ce lieu. Et donc, j'ai commencé par ouvrir Paris, je crois, ça a été le premier. Et après, j'ai fait Marseille-Bordeaux.
Et puis, en 1993, parce que ça a duré quelques années encore, on est en 90, hein, quand vous vous occupez
oui,
des Virgin Café. Et puis, en 93, vous retournez à ce qu'on pourrait appeler un vrai restaurant.
Alors, je continue, oui, 90-91, je suis chez Virgin, je suis aussi à la Villette. Et puis je me rends compte qu'à la suite de ça, une fois que le contrat est arrivé à son terme, il ne renouvelle plus parce que les équipes sont en place. J'avais mis quelqu'un qui m'a suivi beaucoup dans ma vie, qui a été formidable, Patrick Druard, que j'ai pris pour être le directeur général des restaurants. Et après, il a même travaillé pour avoir un poste chez Virgin hors cuisine. Donc après moi, ils ont voulu prendre plusieurs personnes et ça a été un fiasco total. Rien n'a marché. Ils ont pris des espèces de trucs mexicains, etc. Et tout s'est cassé la gueule. Voilà.
Et vous avez eu envie d'aller ailleurs? Peut-être rattrapé par une envie de cuisine gastronomique que vous aviez laissée de côté?
Non, pas du tout gastronomique. Ce que je me rendais compte, c'est que si on n'a pas une vitrine, c'est-à-dire comme j'avais eu avec le gastro, et pour faire le comptoir, pour faire les Virgin, etc., le Guanani et tous les restaurants que j'ai faits, eh ben, les gens ne viennent pas à vous voir. Donc au dernier moment, après avoir mis fin à ces contrats, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ouvre un restaurant.
À vous?
À moi. Et j'avais, à ce moment-là, ça faisait quelques années que j'avais plus de restaurant. Ça faisait environ 4 ans. Et j'ai trouvé, alors ça c'est assez rigolo, parce que un de mes amis m'invite à dîner chez l'ami Louis. Il est dans l'immobilier et il me dit, oh, c'est marrant, il faisait des gérances d'immeubles. On me dit, alors là, j'ai rentré un immeuble et tout, il faut que je te raconte, c'est très drôle, parce qu'au rez-de-chaussée, il y a une espèce de restaurant, ni fait ni à faire, tenu par une vieille dame espagnole, et où le menu est à 5 francs.
5 francs.
5 francs. Et à ce moment-là, il me dit, bon, il est fermé depuis un an parce que la dame était trop âgée, elle a arrêté. Mais il y a ce local et tout. Oh, j'ai dit ça, moi je connais pas du tout cet endroit. Rue Saint-Georges, à Paris.
Dans le 9e.
Et me dit, je veux que tu me montres ce lieu, ça m'amuse beaucoup de le voir. La nuit, on va voir après le repas chez l'ami Louis, on va voir ce lieu. Et je tombe amoureuse de cet endroit.
Qui s'appelait la Casa Miguel.
Qui s'appelait la Casa Miguel, où on voyait à travers la vitre des vieilles nappes en toile cirée, des bouteilles d'eau qui avaient 3 ans qu'elles étaient là, posées, les petits verres et tout. Et je me dis, je sais pas, oh, j'ai une idée, je voudrais faire une espèce de petit bistrot là.
Il me dit, c'est petit, hein.
C'est tout petit, c'est à la taille du premier restaurant que j'ai eu. Il me dit, t'es complètement cinglé, qu'est-ce que tu vas faire un restaurant là? Ça ressemble à rien, etc. J'ai dit, j'ai envie d'acheter ce lieu. Donc, j'ai acheté le fond, ce qu'on appelle le fond. En fait, c'est-à-dire très peu. J'ai donné quelque argent à mon ami. Et puis, j'ai fait, à ce moment-là, un restaurant qui s'est appelé Casa Olab et où je suis restée. Beaucoup plus qu'ailleurs, j'y suis restée plus de 20 ans.
20 ans. 20 ans à proposer une cuisine de bistrot simple que vous appelez une cuisine du bon sens.
Oui.
Sur le menu, ignorante, instinctive, telle que vous l'avez toujours faite finalement.
Toujours, toujours faite. Et là, alors là, je fais non pas une cuisine gastronomique, mais une cuisine de plus de bistrot. Mais en reprenant aussi des raviolis d'Omar, des choses. J'avais la clientèle pour toutes sortes de menus. Mais je fais un menu carte. Et je suis la deuxième à le faire. Yves Candebord a son restaurant et il a fait ça, je crois, 5 mois avant moi. Je fais ça et je sers comme à la maison, c'est-à-dire je fais le tour de France pour acheter des vraies cocottes.
En fonte.
Patinées en fonte. Des grandes poêles en fer et tout est présenté dans les cocottes, dans les poêles où c'est cuit, des épaules d'agneau entières pour 2 personnes, des cocottes de légumes, etc. Voilà.
Simplicité donc d'une carte sur un tableau noir, ça aussi ça se faisait pas du tout.
Oui.
Encore, alors que ça
un
se
tout
fait
petit
beaucoup
tableau,
maintenant.
Voilà.
Produits évidemment frais.
Toujours les bons produits.
De qualité, cuisinés à la minute.
Toujours.
La cocotte au fonte, c'est aussi l'idée d'une cuisine à partager.
Exactement.
La convivialité.
Oui.
Tout cela, Olympe Versigny, a fait de vous, avec Yves Candebord, les chefs de file de ce que le grand journaliste gastronomique Sébastien Demorand a appelé la bistronomie. La bistronomie, parce que vous disiez non, c'était pas du tout une cuisine gastronomique. Si on entend par gastronomie le fait de bien manger,
ça
on
l'était.
Peut dire oui, c'est
oui,
pas de la
sûr.
Haute gastronomie qui coûte extrêmement cher, qui est étoilée, etc. Mais c'est de la gastronomie.
Mais c'est de la gastronomie, bien sûr.
Parce que ce sont des bons produits et une bonne cuisine. Version bistrot, parce que les prix sont raisonnables.
Bien sûr.
Ça l'idée?
Bien sûr, parce que malgré tout, dans ce lieu, il n'y a pas le même nombre de personnes à travailler. En cuisine, on est 4, et en salle, ils sont 2. C'est vraiment
pour combien de couverts?
Alors, c'est à cette époque-là, c'est midi et soir. On peut dire que c'est environ 80 couverts par jour. On reste assez tard. On reçoit à l'époque, quand on commence en 93 avec ce bistrot, on reçoit jusqu'à 11h du soir. On prend des clients encore à 11h du soir.
Et là, vous faites une cuisine qui est à l'émotion, qui est au souvenir, qui est construite sur et patinée dans le temps, parce que voilà, 93,
oui.
Ça fait déjà 20 ans que vous avez commencé.
Ah oui, exactement. Et c'est, comme je vous dis, je revois ce que j'appelle mes classiques. Je fais les plats partagés, donc ces épaules d'agneau qui sont servies dans le plat avec des petites pommes de terre sautées et tout. Et ça c'est le succès du lieu aussi. Et je fais malgré tout aussi toujours les raviolis, les pâtes, je fais des frites, je fais des lapins cocottes, je fais aussi des
galettes de farine de châtaigne.
Voilà, la galette de farine de châtaigne avec l'œuf poché.
Croustillant de boudin noir.
Croustillant de boudin noir.
Je vous rappelle vos...
Oui, c'est vrai, vous me rappelez.
Plats, hein, vos recettes. Hein. Oreilles de cochon en
voilà.
Salade tiède.
Oui, des nez de cochon aussi. Des petites crépines de pied de veau, voilà, des tas de choses. Il y avait, malgré tout, il y avait aussi 2 ou 3 entrées du jour et 2 ou 3 plats du jour et 2 desserts du jour, plus d'un menu carte qui était changé environ 4 fois par an.
Vous dites, Olympe Versigny, que là, c'était aussi des classiques que vous saviez faire, des choses que vous aimiez faire. Et de toute façon, vous n'avez jamais fait autre chose qu'est-ce que vous aimiez faire. On a bien compris, mais comment inscrire ça dans le temps? Comment arriviez-vous à vous renouveler malgré tout. Déjà pour ne pas vous ennuyer, vous, et puis ensuite pour suivre quand même les années, les époques, l'air du temps, sans tomber dans la mode. Mais quand même, il fallait suivre aussi la demande des clients qui évoluait.
Alors, ça, vous voyez, la demande des clients qui évolue, je la suivais pas vraiment. D'ailleurs, je ne sais pas quelle était leur demande. Parce que j'ai eu les grands-pères, les fils et les petits-fils, moi, en 40 ans. J'ai eu des générations de clients. En fait, ce qu'ils aimaient, c'était manger ce que je faisais, sans poser de questions. Et moi, comme je le dis toujours, maintenant, on voit beaucoup de chefs ont des sourceurs, ce qu'ils appellent des sourceurs. C'est-à-dire, ce sont des gens qui leur présentent des produits et qui cherchent des produits nouveaux, originaux, etc. Mais moi, ce que je préfère dans la cuisine, c'est cette première démarche. La démarche du cuisinier, c'est quoi? C'est être sourceur, c'est découvrir par ses voyages, par sa culture, par sa connaissance, des nouvelles choses qui peut agrémenter à son idée.
Mais comment arriviez-vous à être dans votre restaurant pour faire la cuisine tous les jours et en voyage pour aller chercher des nouvelles et des nouveaux producteurs et des nouvelles productrices?
Alors, j'ai fait quand même une révolution dans ce restaurant en 93 qui a été, premièrement, à l'époque, on donnait un jour et demi de congé au personnel. C'était la loi, était comme ça. Je leur ai d'abord donné 2 jours de congé par semaine, qui étaient le samedi et le dimanche, ce qui était très rare. Le dimanche, oui, mais c'était souvent dimanche, lundi. Alors, j'ai d'abord donné le samedi et dimanche, et j'ai donné 2 mois par an, en plus tous les fériés de congé. Donc, j'ai eu des gens formidables qui m'ont suivi 25 ans, 20 ans. On fermait 15 jours à Noël, donc ils avaient toutes leurs fêtes en famille. Je fermais du 1er mai au 15 mai et je fermais un mois au mois d'août. Donc, ça me permettait d'avoir des gens formidables qui adoraient travailler chez moi. Ils aimaient et leur travail et leurs vacances et leur manière de vivre.
Oui, c'est ça, et les conditions de travail.
Et les conditions de travail.
Alors même que on apprend seulement maintenant depuis 5-6 ans, je rappelle qu'on est en 2025 quand on enregistre ces émissions avec vous, Olympe Versigny, que les conditions de travail dans les restaurants, maintenant c'est dit, tout le monde de la gastronomie et de la restauration l'a toujours su quand on travaillait dedans, mais ça sortait pas beaucoup. Et maintenant ça sort, l'idée que c'est un monde extrêmement dur, extrêmement violent, avec effectivement très peu de temps pour soi, pour la famille. On l'a vu à tel point que pendant le confinement, en 2020, du fait de la pandémie de Covid-19, la restauration s'est retrouvée. Le personnel de restauration s'est retrouvé souvent chez lui, chez elle, oui, à pouvoir avoir son temps. Et il a été très, très compliqué de revenir au travail comme avant. D'où la difficulté pour les restaurateurs de recruter, mais d'où aussi la nécessité pour tout ce monde-là de se renouveler, de changer les codes et les modèles économico-sociaux de la restauration. Ils auraient peut-être dû prendre modèle chez vous.
Je ne sais pas.
30 ans plus tôt.
Je ne sais pas. Mon idée, c'était pas d'être riche. C'était de gagner bien ma vie et de vivre un peu, parce que aussi j'avais, ma fille était jeune à l'époque et j'avais eu du mal, pas du mal, mais je m'étais moins occupée de mon fils Abel quand il était petit. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'âge de 55 ans, il me reproche que je l'ai laissé souvent seul à la maison. Il n'était pas souvent seul. Il était au-dessus du restaurant où il avait quelqu'un à la maison qui s'en occupait. Mais c'est vrai, la vie de famille, il faut l'oublier dans ce métier. Et donc, je voulais plus de temps à ce moment-là. Plus de temps. Et pour moi, et je voulais plus de temps pour les gens qui travaillaient avec moi. Parce que il n'y a rien de pire dans le travail, qui était un travail très dur de la restauration, être dans une ambiance désagréable. Ce qui a été chez moi de formidable, c'est qu'il y a toujours eu une bonne ambiance. Et les gens se sont toujours bien entendus. Je me suis souvent adaptée au caractère de chacun.
Et eux aussi ont dû s'adapter au vôtre, sans
doute.
Ils
se sont aussi adaptés au mien. Et tout ça fonctionnait très bien.
Vous étiez une chef pas trop difficile?
Non, plus à cette époque.
Ah, vous l'aviez été?
J'avais été.
En même temps, vous disiez que vous aviez peu de personnel et que vous étiez un peu seule avant. Donc, en même temps, vous n'aviez pas beaucoup de
gens.
Non,
quand j'ai commencé.
À maltraiter.
Mais après, lorsque j'ai eu le restaurant gastronomique, on était 13-14 en cuisine.
Et là, il y avait de l'attention.
Et il y avait autant de personnes en salle. Et donc, ça veut dire presque 25 personnes à gérer, ça fait beaucoup de monde.
Parlez-moi de ces personnes qui étaient importantes dans ce petit restaurant Casa Olin, parce qu'elles ont beaucoup compté. Jeannine Reynaud, Dominique Blin, Miguel González.
Bien sûr.
Ils faisaient quoi, ces gens?
Alors, ça, c'est formidable. Alors, j'ai eu un jour, je veux ouvrir, et ça se sait que je vais ouvrir de nouveau un restaurant. Et je reçois une lettre d'un monsieur qui s'appelle Dominique Blin et qui me dit, voilà, Olympe, j'ai appris que vous allez ouvrir un nouveau restaurant et j'aimerais travailler avec vous. Il avait travaillé dans mon ancien restaurant, dans le gastro. Mais quand je n'y étais plus, quand il n'y avait que mon mari, il avait travaillé 3 ans, je crois. Je le reçois, on s'entend très bien et je dis OK. Et puis après, il faut une personne supplémentaire. Et je vois une femme très chic qui vient me voir et me dit, voilà, je sais, Olympe, que vous allez ouvrir. Je vous connais parce que j'ai entendu parler de vous. J'aimerais venir travailler en salle avec vous. Et je me dis, mais je peux pas. Je lui dis, écoutez, vous avez jamais travaillé en salle. Est-ce que vous... Oh, elle me dit, je me suis occupée de ma maison, j'ai eu 2 enfants. Elle était la femme d'un notaire. Et elle s'était séparée de son mari, ses enfants étaient grands déjà, elle avait son fils était chirurgien, sa fille était à Paris. Je lui dis, vous savez, c'est difficile parce que c'est pas le tout de s'occuper des clientes, de prendre des commandes, de servir. Faut nettoyer la salle, le balai. Elle me dit, mais moi je sais gérer une maison, Olympe, il y a aucun problème. Donc j'accepte que Jeannine travaille. Alors ça, ça a été les 2 piliers qui sont restés jusqu'à la fin. Et ça a été un rêve total. Elle était souriante de 8h du matin à minuit. Dominique Blin, il gérait tout, il gérait la caisse, tout était, il passait des heures à faire les comptes, il était formidable, c'était pareil, et il avait un professionnalisme absolument extraordinaire, parce que malgré tout, dans ce petit bistrot, j'avais gardé des habitudes de grand restaurant, et c'était bête, mais c'était comme ça. Et c'était nappé de nappes blanches, avec de grandes serviettes blanches, avec une très jolie vaisselle, et avec un service, qui n'était pas un service de bistrot, qui était vraiment un service de restaurant, où on servait le vin des clients, où on prenait leurs manteaux et on les mettait, d'ailleurs, dans un faux vestiaire, etc. Ils bénéficiaient de ce service.
Il n'y avait finalement que le tarif des repas qui n'étaient pas comme une cuisine ou un restaurant de haute gastronomie.
Pas du tout.
C'était important pour... Alors, au début, vous disiez, quand vous avez commencé, que votre premier restaurant était cher et que ça faisait fuir un certain nombre de personnes qui se disaient « Ouh là là, c'est pas pour moi ». Là, finalement,
c'était
le contraire.
C'était un restaurant, c'était un bistrot qui était dans des prix de bistrot. Alors, il y avait aussi, parce qu'il y avait un menu carte, alors je me souviens absolument plus du prix du début, c'était en francs. Mais il y avait aussi des suppléments, c'est-à-dire que si les clients voulaient manger des raviolis de langoustine ou de homard, il y avait un supplément adéquat que les clients acceptaient. Ça augmentait évidemment, mais le menu carte était à un prix très correct.
Pourquoi ? C'était important pour vous ? C'était l'idée que bien manger ne devrait pas être réservé aux riches ? C'était quoi votre idée ? Ou ça n'allait pas jusqu'à cette théorie?
Non, ça n'allait pas.
Je vois bien parce que vous soupirez.
Jusqu'à cette théorie, j'ai jamais pensé à ça. Je pensais que j'avais beaucoup moins de frais parce que aussi, il faut savoir que malgré tout, dans les restaurants gastronomiques, on a des énormes frais qui sont hors prix du produit et prix du vin. Parce qu'il y a beaucoup de personnel. Voilà. Ça coûte beaucoup plus cher en gestion qu'un bistrot. Il y a moins de personnes qui travaillent.
Là, vous étiez 3 en plus de vous, c'est
voilà.
Ça donc, effectivement, le personnel étant moins cher, vous pouviez vous permettre...
Et encore, on était 3 plus moi, on n'aurait pu être que 3. Mais moi, je voulais aussi alléger mon travail. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à 8h du matin au restaurant. Moi, j'arrivais à 11h, je partais au dernier plat et je revenais le soir à 7h30, 8h.
C'était un tarif raisonnable, ça n'empêchait pas Serge Gainsbourg de venir manger une épaule d'agneau. Il aimait ça, c'était un client régulier de Casa Olympe, je crois.
Oui, c'était un client régulier de Casa Olympe, et même du premier restaurant. Il a toujours suivi, il aimait boire, mais il y a beaucoup de gens qui aiment boire. Mais il avait ce côté distingué, bien élevé et gentil, qui était extrêmement plaisant. Voilà.
Est-ce que ce que vous nous dites là, Olympe Versigny, ça pourrait être le vademécum du restaurant avec les clés du succès, c'est-à-dire comment ouvrir un restaurant et faire en sorte qu'il tienne dans la durée, avec tout ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire un endroit qui n'a pas besoin d'être immense, pas beaucoup de personnel, des conditions de travail qui sont agréables, etc., etc. Les bons produits, enfin tout ce que vous nous dites là. Est-ce que pour vous, ceux qui, et celles qui souhaitent ouvrir un restaurant aujourd'hui devraient écouter et suivre ces conseils?
Sans doute, mais c'est encore plus difficile aujourd'hui par rapport aux personnes qui travaillent, parce que comme vous l'avez signalé lorsqu'il y a eu cette pandémie qui a laissé les gens chez eux plus, ou les restaurants fermés, il faut vous dire que aujourd'hui, les jeunes ont complètement changé dans leur manière de penser, et en fait, ils sont beaucoup plus pour l'aventure, c'est-à-dire ils peuvent travailler 6 mois dans un restaurant, en France, à Paris. Après, ils vont partir peut-être à New York 3 mois. Après, ils vont aller au Japon 2 mois. Ils font le tour du monde, ils font le tour même de France. Et ils ne se fixent pas comme on se fixait. Moi, l'idée, je trouve ça formidable, parce que j'aurais bien aimé faire ça et gagner ma vie. Alors, est-ce que j'avais plus besoin d'argent que les gens qui travaillent aujourd'hui? Est-ce que je devais gagner plus d'argent ou aujourd'hui, ça suffirait finalement de vivre de cette manière? Je ne sais pas. C'est tout nouveau pour eux. Est-ce que après, ce qui se passe quand on a plus 20 ans et qu'on en a 40, 50, est-ce que ça ne va pas devenir plus difficile de gagner sa vie? Je n'en sais rien. Disons que faire ce que j'ai fait, même aujourd'hui, ça serait difficile.
Votre Casa Olympe est restée une institution entre 1993 et 2013. Entre 93 et 2013, est-ce que vous diriez que la cuisine cette fois, a plus changé qu'entre 1973 et 1993?
C'est difficile pour moi de le dire, parce que je dirais maintenant oui. Je dirais oui. Mais à cette époque, je ne vois pas tellement de différence, sauf que les jeunes ont décidé que le Michelin, les étoiles, c'était terminé. Et il s'est trouvé beaucoup de grands cuisiniers qui ont été dans des grandes brigades dans l'hôtellerie. Parce que pour avoir des restaurants et avoir des brigades comme ça, c'est extrêmement difficile. Il n'y a que la grande hôtellerie de luxe qui peut les avoir. Et ces chefs-là ont décidé que les étoiles ne les intéressaient plus. Je prends l'exemple de Camp de Bord, je prends l'exemple par exemple de la Mijan. Ils ont tous abandonné ça, ils ont fait des bistrots. Et je suppose qu'ils ont bien fait, parce qu'ils ont très bien gagné leur vie dans ces bistrots à l'époque. Et ils ne se sont plus embêtés, comme beaucoup de cuisiniers, à trembler parce que on va la gagner, on va la perdre. Comment on fait, etc. La cuisine et les plats, je vois pas tellement de changements. À cette époque-là, je vois pas tellement de changements.
Vous nous parlerez demain pour la dernière émission, alors Olympe Versigny, de ce que vous voyez comme changement. Vous en voyez, vous en constatez aujourd'hui plus que dans ces années-là. Et puis, on parlera aussi dans l'épisode 5 de l'importance de l'esthétique. Vous avez commencé oui. d'en parler, le contenant, le service, l'art, les arts d'ailleurs, puisque vous êtes sensible à beaucoup d'art. D'où le titre de ce 5e épisode, L'art de vivre. À demain.
À demain.
Merci.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Olympe Versigny. Réalisation Manouchak Fachaï. Prise de son Benjamin Perru. Chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.